Chapitre 3. Le monde est plein d'incidents mystérieux, et Hamlet avait raison de dire qu'il se passe dans le ciel et sur la terre beaucoup de choses que n'explique pas la philosophie d'Horatio. On a remarqué que dans les temps de grande guerre, où des peuples venus de tous les coins d'un vaste empire se trouvent subitement réunis en corps d'armée pour faire campagne ensemble, on voit se développer parmi eux des contagions étranges, des pestes meurtrières, et un grand spéculatif n'a pas craint d'en attribuer la cause au rapprochement forcé d'hommes très différents, d'humeur, de langage, d'esprit, qui n'étant point faits pour vivre en société, sont mis en contact par un méchant caprice de la destinée. On a remarqué aussi que, quand l'équipage du bâtiment, qui chaque année apporte aux pauvres habitants des îles Shetland les denrées nécessaires à leur subsistance, vient à débarquer sur leurs côtes, ils sont pris d'une toux convulsive et qu'ils ne cessent pas de tousser avant que le navire est remis à la voile. On raconte également que l'approche d'un navire étranger, les naturels des îles Féroé sont attaqués d'une fièvre catarrhale dont ils ont beaucoup de peine à se débarrasser. On a constaté enfin qu'il suffit parfois de l'arrivée d'un missionnaire dans quelque île de la mer du Sud, pour y enfanter les épidémies pernicieuses qui déciment les malheureux sauvages. Ceci doit servir à expliquer pourquoi, dans la nuit du 13 août 1878, la belle Madame Corneuil eut un sommeil très agité et pourquoi, en se réveillant le matin sous ses blancs rideaux de mousseline, elle se sentit comme brisée dans tout son corps. Or, ce n'était pas la peste, ce n'était pas le choléra. Ce n'était pas une fièvre catarrhale, ni une toux convulsive. Mais elle éprouvait une tension de tête, un malaise, une irritation nerveuse toute particulière. Et elle eut le pressentiment qu'il y avait dans son voisinage un danger ou un ennemi tout fraîchement débarqué. Pourtant, elle ne connaissait point le marquis de Miroval. Elle n'en avait jamais entendu parler, elle ne savait pas qu'il était plus dangereux que tous les missionnaires qui ont pu aborder dans les îles de l'océan Pacifique. Quand sa mère, qui était toujours la première à entrer dans sa chambre pour lui prodiguer des soins qu'elle seule savait lui rendre agréables, s'approcha de son lit sur la pointe des pieds et lui souhaita le bonjour, Madame Corneuil, mal disposée, lui fit un accueil un peu sec, et Madame Verrettes put s'apercevoir que son ange adoré s'était réveillé d'assez mauvaise humeur. À la vérité, cette tendre mère était accoutumée aux incartades. On la traitait de haut comme une impératrice traite sa dame du palais. Mais elle y était faite et ne s'en affectait guère. Sa fille était sa reine, sa divinité, son tout. Elle s'était consacrée tout entière à son bonheur, à sa gloire, et elle lui rendait un culte de véritables adorations. Elle appartenait à la race des mères, servantes et martyrs. Mais sa servitude lui plaisait, son martyre lui paraissait délicieux, et cette petite femme, maigre, au regard vif, aux allures serpentines, qui avait, comme qu'a-t-on le censeur, auquel du reste ne ressemblait guère, l'œil vert et les cheveux rouges, faisait toujours bon visage aux duretés qu'elle essuyait. Elle avait de quoi se consoler. On avait beau la rudoyer, la gourmander, la renvoyer bien loin, on finissait toujours par l'écouter, attendu qu'on s'en était toujours bien trouvé. C'était par son conseil qu'au moment propice, on s'était brouillé, puis réconcilié avec M. Corneuil. C'était grâce à ses précieuses directions qu'on avait pu tenir un salon à Paris et y devenir quelque chose. Madame Corneuil régnait en définitive, mais c'était Madame Verrettes qui gouvernait, et il faut le dire, elle n'avait jamais en vue que le bien de sa chère idole. Nous avons tous des pensées confuses que nous avons peine à débrouiller, et des désirs cachés que nous n'osons pas nous avouer. Mais Madame Verrettes avait le don de deviner sa fille, de lire dans tous les replis de son cœur. Elle se chargeait de débrouiller ses pensées confuses et de lui révéler ses désirs inavouables en les prenant à son compte. C'était le secret de son influence qui était considérable. Quand l'imagination de Madame Corbeneuil voyageait, cette mère incomparable partait la première en courrier, et en arrivant à l'étape, la belle voyageuse y trouvait des chevaux de relais tout préparés, et elle savait gré à Madame Vérès de lui ménager d'agréables surprises. Aussi se serait-elle gardée de s'embarquer dans aucune aventure sans son courrier, à qui elle avait l'obligation de n'être jamais restée en chemin. Après avoir renvoyé sa mère et passé une demi-heure avec sa femme de chambre, Madame Corneuil prit une tasse de thé, puis elle s'assit à son secrétaire. Elle employait ses matinées à écrire un livre qui devait faire suite au traité sur l'apostolat et qui était intitulé « Du rôle de la femme dans la société moderne ». À vrai dire, c'était tiré deux moutures du même sac. Son but était de démontrer que dans une société démocratique, vouée au culte brutal du nombre, le seul correctif à la grossièreté des mœurs, des pensées, des intérêts, est la souveraineté de la femme. « Les rois s'en vont », avait-elle écrit la veille et dans un moment d'inspiration. « Laissons-les partir, mais ne souffrons pas qu'ils emportent avec eux la royauté dont les bienfaisances sont nécessaires aux républiques eux-mêmes. Sur le trône qu'ils laissent vide, faisons asseoir la femme, avec elle rayons la vertu, le génie, les aspirations sublimes, les délicatesses du cœur, les sentiments désintéressés, les nobles dévouements et les nobles mépris. Peut-être ai-je gâté sa phrase, mais je crois en avoir rendu le sens. Je crois aussi que, dans le portrait qu'elle en faisait, la femme supérieure qu'elle proposait à l'adoration du genre humain ressemblait étonnamment à Madame Corneuil, et que ne pouvait se la représenter sans de superbes cheveux d'un blond chaud enroulés autour de son front comme un diadème. Quand on a mal dormi, on n'est pas en train d'écrire. Ce jour-là, Madame Corneuil n'était pas en verve. La plume pesait à sa jolie main aux doigts effilés. Les idées et l'expression lui manquaient. En vain, elle entortillait autour de son index une boucle voltigeante de ses cheveux. En vain, elle interrogeait du regard ses ongles roses. Rien ne venait. Elle se prenait à croire qu'entre elle et son papier, il y avait quelque chose qui ressemblait à un malheur. Dieu sait pourtant qu'on s'appliquait en pareil cas à ménager ses nerfs, à ne lui causer aucune distraction. C'était une consigne. Pendant les heures où on la savait retirée dans son sanctuaire, le silence le plus profond régnait partout. Madame Vérès y mettait bon ordre. Tout le monde parlait bas, marchait à pas de loup, et quand Jacquot, qui faisait les courses et les commissions, traversait la cour pavée, il avait grand soin d'ôter ses sabots pour qu'on ne l'entendît pas. Cette précaution était un fruit d'une douloureuse expérience. Jacquot cultivait la trompette à ses moments perdus, et un matin qu'il s'était permis d'en sonner, Madame Vérette, survenant à l'improviste, lui avait appliqué un vigoureux soufflet en lui disant « Mais tais-toi donc, petit imbécile, sais-tu pas qu'elle médite ?» Jacquot s'était frotté la joue et se le tint pour dit. Tout le monde en faisait autant. Aussi, de 8 heures à midi, Jacquot disait tout bas à la cuisinière disait au cocher, le cocher disait aux volailles de la basse cour, qui le redisait au Pierrot, qui le répétait aux merles et à tous les vents du ciel. « Frère, taisons-nous, elle médite !» Au coup de midi, la porte du lieu très saint se ouvrit doucement, et comme la première fois, Madame Vérette s'avança sur la pointe des pieds, disant « Ma chère belle, est-il permis d'entrer ?» Madame Corneuil fronça ses beaux sourcils et d'un air boudeur renferma ses papiers dans la plus élégante des buvards et son buvard dans les profondeurs de son secrétaire en bois de rose dont elle eut soin, crâne des voleurs, de retirer la clé. Mais on s'est donné le mot, dit-elle, pour ne pas me laisser un moment de repos. J'ai dû faire une course ce matin, répondit Madame Verrès. Est-ce que par hasard Jaco aurait profité de mon absence? Non, Jaco ou un autre, je ne sais pas, mais on a fait du bruit, remué des meubles. Oh, cette course était donc bien nécessaire. Indispensable, tu t'es plaint hier à dîner que le poisson n'était pas frais et que Julie ne savait pas acheter. Désormais, je fais moi-même mon marché. Mais pendant ce temps, on mènera ici un vrai sabbat. Mais que veux-tu entre deux mots? Non, interrompit Madame Corneuil. Je ne veux pas que vous alliez en personne marchander de poissons. Que n'enseignez-vous à Julie à le choisir? Vous ne savez pas commander. Alors il en résulte que vous devez tout faire vous-même. Mais j'apprendrai, je me formerai, ma mignonne, répondit Madame Verrets en la baisant tendrement sur le front. Elle n'ajouta pas qu'aller au marché lui plaisait, ce qui était vrai. Parmi les gens qui ont eu de petits commencements, les uns répudient leur passé et tâchent de l'oublier, et les autres prennent un extrême plaisir à se le rappeler. « Oh, qu'est-ce encore que cela ? » s'écria Madame Corneuil, qui s'aperçut dans ce moment que sa mère tenait à la main un papier. « Bien, ceci, ma chère, est un billet par lequel M. de Perdeville me charge de t'annoncer que son grand-oncle, le marquis de Miraval, arrivé hier de Paris, lui a témoigné le désir de t'être présenté et qu'il l'amènera aujourd'hui à 2 heures précises. Tu sais qu'il est sujet au coup de cloche. » Mais qui l'empêchait de venir nous l'annoncer? Apparemment, il a craint de te déranger, et peut-être aussi de se déranger lui-même. Dans les existences bien ordonnées, la première règle est de travailler jusqu'à midi. Madame Corneuil fit un geste d'impatience. « Et qui est donc ce grand-oncle? Jamais Rasse m'en avait parlé. » Mais je le crois sans peine, il ne parle jamais que de toi, ou bien de lui, ou bien de l'Égypte, ajouta-t-elle. Et s'il me plaît qu'il m'en parle, répliqua Madame Corneuil avec hauteur, est-ce encore une épigramme? Mais me juges-tu capable de faire des épigrammes contre ce cher et beau garçon? Reprit vivement Madame Verrès. Je l'aime déjà comme un fils. Madame Corneuil était devenue pensive. Oh, j'ai fait cette nuit de mauvais rêves, dit-elle. Vous vous moquez de mes rêves, car vous aimez à vous moquer de moi, mais voyez pourtant. En venant de Paris, M. de Miraval a sûrement passé par Vichy. Ce marquis est en danger. Un danger? S'écria Madame Verrès. Mais quel danger peux-tu craindre? Ouf. Vous verrez que c'est Madame de Penneville qui l'envoie ici. Et tu t'imagines qu'Horace? Ma pauvre folle, mais n'es-tu pas sûre de son cœur? Mais t'es jamais sûre du cœur d'un homme, répondit-elle en feignant une inquiétude qu'elle était loin d'éprouver. D'un homme peut-être, dit en souriant Madame Verrets, mais le cœur d'un égyptologue est autre chose et ne varie jamais. En fait de sentiments, l'égyptologie est le beau fixe. Mais je vous dis que j'ai fait de méchants rêves et que ce marquis est un danger. Voilà ma réponse, lui repartit sa mère en lui présentant un miroir et en l'obligeant à s'y regarder. Oh, il me semble que je suis affreuse ce matin, dit Madame Corneuil, qui n'en pensait rien. Mais vous êtes belle comme le jour, ma chère comtesse. Et je défie tous les marquis du monde. Non, je ne recevrai pas ce grand-oncle, reprit Hortense en écartant le miroir. Vous le recevrez pour moi. Prétendez-vous me condamner à essuyer des impertinences? Te voilà bien, mais tu mets les choses au pis, tu t'exaltes, tu te montres, tu pars de la main. Je vous répète que je suis malade. Mais ma chère adorée, il ne faut jamais être malade qu'à propos, et dans ce cas-ci, prends-y garde, il s'imaginera qu'il te fait peur. Madame Corneuil jugea sans doute à la réflexion que sa mère avait raison, car il lui dit « Eh bien, puisque vous voulez, absolument, je m'impose cette corvée, soit. Ordonnez qu'on me monte mon déjeuner et envoyez-moi ma femme de chambre. » « C'est un peu mieux, répondit Madame Verrets. Ah, ma chère, ce n'est pas une corvée que je t'impose, c'est une victoire que je te prépare. » Et à ces mots, elle se retira, non sans l'avoir embrassée une seconde fois. À 2 heures précises, Madame Verrets, sous les armes, installée dans un joupa qui faisait face à la véranda du chalet, attendait le comte de Perneville et Monsieur de Miraval. À 2 heures précises, le marquis et le comte parurent à l'horizon. La présentation se fit dans toutes les formes, et bientôt l'entretien s'engagea. Madame Verrets était une femme experte en tous les cas difficiles. L'imprévu ne la déconcertait point. Elle savait faire fête aux visiteurs fâcheux comme aux événements désagréables. Monsieur de Miraval ne lui fournit point l'occasion d'exercer sa vertu. Il fut parfaitement courtois et gracieux. Il déploya en cette occurrence son amabilité, son brillant des grands jours. Il se mit en frais, autant qu'il le faisait jadis, pour les puissants de la terre qui lui donnaient audience. À quoi servirait-il d'avoir été diplomate si l'on possédait l'art utile de parler beaucoup sans rien dire? Il avait la parole à son commandement, et quand il le fallait, une éloquence fluente, le talent de faire couler, comme dit le proverbe russe, du miel sur l'huile. Tout chemina fort bien. Horace, qui avait beaucoup redouté cette entrevue, et qui d'abord avait eu l'air contraint et gêné, fut bientôt hors de peine. Il sentit se dissiper son embarras, il était dans son caractère de se rassurer très vite. Non seulement il était né optimiste, mais il avait trop approfondi la théologie égyptienne pour ne pas savoir que dans le monde des hommes comme dans celui des divinités, la lutte entre les deux principes se termine d'habitude par la victoire du bien, que Typhon finit par se laisser désarmer et qu'Horus, dieu bienfaisant, prend en main le gouvernement de l'univers. La figure du comte de Perneville exprimait une foi profonde dans le triomphe définitif d'Horus, dieu bienfaisant. La grasse classe était tout à fait rompue lorsque Madame Corneuil fit son apparition. Comme on peut croire, elle avait soigné pour la circonstance sa toilette et sa coiffure. Son demi-deuil était des plus coquets. Il faut en prendre son parti. Il y a des femmes qui ressemblent beaucoup à des bourgeoises. Il y a des bourgeoises qui ressemblent à des reines, moins la couronne et le roi. Ce jour-là, Madame Corneuil était non seulement reine, mais déesse des pieds à la tête. On eût dit Junon sortant de son nuage. Elle ne manqua pas son entrée. En la voyant venir, le marquis ne put réprimer un tressaillement, et quand il s'approcha d'elle pour la saluer tête basse, il perdit contenance, ce qui ne lui arrivait guère. Il demeura confus, commença plusieurs phrases sans pouvoir les achever, et l'on assure que c'était la première fois de sa vie qu'il avait essuyé pareille mésaventure. Son trouble était si visible que le bon Horace, qui n'en manquait rien, ne laissa pas de le remarquer. Monsieur de Miraval fit un effort sur lui-même, il ne tarda pas à recouvrer son assurance et toute l'aisance de ses manières. Après quelques propos oiseux, il se mit à conter avec agrément plusieurs anecdotes de sa carrière diplomate qu'il assaisonna de belle humeur et de sel attique. Tout en comptant, il devisait avec lui-même et se disait « Il n'y a pas à dire, elle est fort belle ». C'est une maîtresse-femme, un morceau de roi. Quels yeux, quels cheveux et quelles épaules! Ah, je gagerais que ce qu'on ne voit pas vaut pour le moins ce qu'on voit. Est-il possible qu'elle soit la fille de sa mère et que ses cheveux rouges aient produit ses cheveux blonds? Après tout, elle se complète. C'est une frégate accompagnée de sa mouche. Il n'y a pas à dire, sa beauté mérite, m'exaspère. Elle était faite pour se rendre heureuse en faisant le bonheur de beaucoup de pauvres diables. Et si j'avais 40 ans de moins, je voudrais être du nombre de ces heureux. Mon Dieu, je ne demanderai pas le morceau tout entier pour moi, non, mais je me contenterai de ce qu'on voudrait bien me donner. Il faut être philosophe et savoir partager. Hélas, les prétentions ont tout gâté. L'ambition, la fureur de paraître sont le fléau du genre humain. La femme qui veut à toute force jouer un rôle tue son bonheur et celui des autres. Mais en conscience, elle est superbe. N'y trouverais-je rien à redire? Oui, elle a dans le regard une inquiétude qui ne me plaît pas. Les lèvres sont un peu minces. Bon, c'est un détail. Grâce à Dieu, elle n'a pas de tache d'encre au bout des doigts. Mais ils sont trop effilés, trop nerveux, et dénotent des mains prenantes. Les paupières sont trop longues. Elles doivent lui servir à cacher beaucoup de choses. La voix est bien timbrée, mais elle sonne sec. Oh, c'est égal, si j'avais 40 ans de moins. Le marquis ne laissait pas de conter ses anecdotes. Madame Verrette s'était tout oreille et souriait de la meilleure grâce du monde. Quant à Madame Corneuil, elle ne se départait pas de sa gravité un peu dédaigneuse. Elle était arrivée avec un parti pris. Elle s'était mis dans la tête qu'elle allait comparaître devant un juge malveillant, venu tout exprès pour prendre sa mesure et la faire asseoir sur la sellette. Aussi s'était-elle armée d'une majesté olympienne, de cette insolence de beauté qui fait rentrer sous terre les impertinents, qui foudroie les orgueilleux et transforme en cerf les actéons. Bien que le marquis fût d'une politesse irréprochable et empressée, bien qu'il sollicitât presque humblement sa bienveillance et ses regards, elle tenait ferme, elle ne désarmait pas. Pour Horace, il écoutait tout d'un air satisfait. Il trouvait que son oncle était charmant, et il mourait d'envie de l'embrasser. Il trouvait aussi que jamais Madame Corneuil n'avait été si belle, que le soleil avait des clartés inaccoutumées, qu'il pleuvait de la lumière sur son bonheur, que l'air embaumait et que toutes les choses de ce monde allaient à merveille. Il avait cependant un scrupule qui l'embarrassait et par instants faisait passer un nuage sur ses sourcils. En relisant le matin un des fragments de Mariéton, il s'était achoppé à un passage qui semblait contrarier sa thèse favorite à laquelle il tenait comme à sa vie. Par intervalles, il se prenait à douter si ce fut vraiment sous le règne d'Apépi que Joseph, fils de Jacob, vint en Égypte. Puis il se reprochait son doute qui lui revenait l'instant d'après. Cette contradiction le chagrinait, car il respectait beaucoup Mariéton. Mais quand il regardait Madame Corneuil, son âme rentrait dans le repos, et il croyait lire dans ses beaux yeux la preuve manifeste que le pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, était bien Sétos premier, auquel cas le pharaon, qu'il avait connu, était bien la pépie. Être tendrement aimé d'une belle femme, cela fait tout croire. Tout devient possible, tout s'arrange. Manéto, Joseph, le roi Pépi et le reste. Mais que se passait-il dans le cœur du marquis? De quel charme vainqueur était-il la proie? Le fait est qu'il ne ressemblait guère à lui-même. Il avait bien débuté, et Madame Verrette prenait plaisir à ses histoires. Et peu à peu, sa verve s'alanguit. Cet homme, si maître de ses idées, ne parvenait plus à le gouverner. Cet homme, si maître de sa parole, cherchait péniblement ses mots. Il lutta, quelque temps, contre l'étrange fascination qui le privait de ses facultés, mais ce fut en vain. Il ne prit plus part à la conversation que par quelques phrases décousues qui manquaient absolument d'à-propos. Et bientôt il tomba dans une profonde rêverie, dans le plus morne silence. « Ma mère avait raison, se dit Madame Corneuil, je lui impose, c'est moi qui lui ai fait peur. » Et s'applaudissant d'avoir fait taire les batteries de l'assiégeant et éteint son feu, un sourire de fierté satisfaite effleura ses lèvres. L'instant d'après, elle se leva pour faire un tour de jardin, et Horace s'empressa de la suivre. Le marquis demeura seul avec Madame Verretz. Il suivit quelque temps du regard le couple amoureux qui s'éloignait à pas lents et qui disparut enfin derrière un buisson. Il parut alors que le charme était rompu. Monsieur de Miraval recouvra la voix et il se prit à murmurer « Amant, heureux amant, souillez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. » Puis, se tournant vers Madame Verretz, il s'écria d'un ton lyrique « Non, on n'a rien inventé aujourd'hui de plus beau que la jeunesse, de plus divin que l'amour. Mon neveu est un heureux coquin, je le félicite tout haut et je l'envie tout bas. » Madame Verretz le récompensa de cette exclamation par un gracieux sourire qui signifiait « Bon vieillard, nous t'avions mal jugé, pourrais-tu par hasard nous servir à quelque chose ?» Plus je les vois ensemble, monsieur le marquis, dit-elle, plus je me persuade qu'ils ont été faits l'un pour l'autre. Jamais caractères ne furent mieux assortis. Ils ont les mêmes goûts, les mêmes dégoûts, la même élévation d'esprit, le même dédain pour les sentiments médiocres et pour les petits calculs, la même insouciance des vulgaires intérêts. Ils vivent l'un et l'autre dans l'azur. Ah, monsieur le marquis, c'est par une dispensation providentielle qu'ils se sont rencontrés. » « Ah oui, très providentiel, » dit le marquis. Et il ajouta in petto, « Oh, la vraie providence et l'habileté des mères !» Puis il reprit, « Bon, de quoi s'agit-il après tout ? D'être heureux. Mon neveu a mille fois bien fait de me consulter que son cœur. Il aura l'azur, comme vous dites, chère madame, et tout le reste par-dessus le marché. Car madame Corneille... Bon, ne parlons pas de sa beauté, qui est incomparable, mais il est impossible de la voir, de l'entendre, sans reconnaître en elle une femme vraiment supérieure, la plus propre du monde à bien conseiller un homme, à le conduire, à le pousser. » « Certes, vous la jugez bien, » répondit Madame Verretz. « C'est une étrange créature que ma fille. Elle a tous les nobles enthousiasmes qu'elle pousse jusqu'à l'exaltation, et cependant, elle est infiniment raisonnable, très intelligente des choses de la vie, et à la fois de glace pour ses intérêts, de feu pour ceux des autres. Une seule chose m'afflige, lui dit le marquis. Le fabuliste recommande aux heureux amants de ne voyager qu'aux rives prochaines, et les nôtres sont enfouir leur félicité à Memphis ou à Thèbes. Enlever Madame Corneille à Paris, c'est un crime. Oh, rassurez-vous, dit-elle, Paris les reverra. Ah, vous ne connaissez pas mon neveu. Il a horreur de cette ville perverse et frivole. Il m'a fait hier ses confidences. Il entend finir ses jours en Égypte. Et il m'a soutenu que Madame Corneille était aussi amoureuse que lui de la solitude et du silence des Thébaïdes. Il a l'air fort doux, et personne n'est plus tenace dans ses volontés. « Ah, la garde de Dieu !» fit Madame Verretz, en regardant le marquis d'un air qui voulait dire « Mon bel ami, il n'y a pas de volonté qui tienne contre la nôtre, et Paris ne peut pas plus se passer de nous que nous de Paris. » « Ils ont choisi la bonne part, » poursuivit Monsieur de Miraval en poussant d'un profond soupir. « Je me suis souvent moqué de mon petit-neveu, à qui je reprochais de ne pas savoir jouir de la vie. » Eh bien, c'est à son tour de se moquer de moi, puisque j'en suis réduit à envier son bonheur. Cueillir des roses, c'est charmant, et j'en ai beaucoup cueilli. Mais il arrive un âge où l'on regrette amèrement d'en avoir pas su se créer à l'intérieur. Vous devez être étonnée de mes confidences, chère madame. J'en suis flattée, beaucoup plus qu'étonnée, répondit-elle. Mais l'ennui me ronge, je dois en convenir. J'avais juré de passer le reste de mes jours dans la retraite, dans le repos. L'ennui me fera sortir de ma tanière. je vais me replonger dans la politique active. Ça me presse de me laisser porter à la députation dans l'arrondissement où est mon château. On me propose aussi le Sénat. Je vais me livrer de nouveau au monstre. Pense encore si j'étais marié à une femme de sens, très intelligente des choses de la vie, quoique un peu exaltée. On réussit dans la politique que par les femmes, et à mon âge, on ne peut plus se flatter de réussir par les femmes des autres. Que n'en ai-je eu là, moi, comme dit le poète, ai-je pas assez le temps d'aimer? Ah, si mon cœur... Je ne me rappelle pas la suite, mais qu'importe. Heureux Horace, trois fois heureux. Vivre en Égypte avec une femme aimée, ou se trémousser à Paris sans femme aimée, au milieu des tripotages de la politique, quelle différence! Madame Vérès trouvait en effet que la différence était grande, mais tout au profit du trémoussement et du tripot. Elle ne put s'empêcher de se dire si mon futur gendre avait l'humeur et les goûts de son grand-oncle, ce serait parfait, et nous n'aurions plus rien à désirer. De ce moment, le marquis de Miraval lui parut un homme intéressant. Elle essaya de le réconcilier avec son sort, et comme elle avait l'esprit des affaires et l'amour des détails, elle lui adressa force questions sur son arrondissement électoral, sur les chances de son élection. Le marquis, un peu embarrassé, y répondit de son mieux. Il ne put se tirer d'affaire qu'en détournant le propos et en faisant à cette curieuse une ample description de son château, qui sans contredit en valait la peine, mais où il n'allait guère. Les renseignements minutieux qu'il lui fournit touchant ses terres et leurs revenus n'étaient pas de nature à refroidir l'intérêt qu'elle commençait à lui porter. Pendant ce temps, Madame Cormeuil arpentait une allée du jardin avec Horace, qui ne s'apercevait pas qu'elle avait les nerfs fort excités et un peu orageux. Il y avait un certain nombre de choses que le comte de Penneville ne s'apercevait presque jamais. « Dieu, quel beau temps !» lui disait-il. « Oh, le beau ciel, le beau soleil, ce n'est pourtant pas le soleil de là-bas. Quand le reverrons-nous ? Oh, là-bas, là-bas, comme dit Mignon, mais vous me chanterez ce soir cette chanson. Personne ne la chante comme vous. Ce parc ne m'a jamais paru si vert. Il faut convenir que la verdure a du bon, quoique je m'en passe à merveille. J'ai connu un voyageur qui trouvait la Grèce affreuse parce qu'elle manque d'arbres. Il y a des gens comme cela qui ont la manie des arbres. Vous rappelez-vous notre première excursion à Gizeh, cette grande plaine nue, ces collines onduleuses, ce sable couleur jaune d'ocre? On en mangerait, diriez-vous. Eh bien, nous rencontrâmes une longue file de chameaux, je les vois encore. À l'horizon pointaient les pyramides, qui nous semblaient toutes blanches et qui dégageaient des étincelles. Comme elles s'enlevaient sur le ciel, elles étaient vibrantes. L'air ne vibre jamais par ici. Oh, le bon déjeuner que nous fîmes dans cette chapelle, assis sur des burnous. Vous étiez coiffé d'un tarbouche qui vous allait comme un charme. Quand donc vous reverrai-je en tarbouche? Par exemple, la dinde était un peu maigre, et puis je commis ce jour-là une fière maladresse. Je laissais choir la gargoulette qui contenait trop du Nil. Nous en fûmes quittes pour rire et pour boire notre vin pur. Après quoi nous descendîmes dans un caveau, et là, pour la première fois, je vous traduisis des hiéroglyphes. Je n'oublierai jamais quel fut votre ravissement quand je vous appris qu'un luth signifiait le bonheur, attendu que le signe du bonheur est l'harmonie de l'âme. Dans l'écriture chinoise, le bonheur est représenté par une main pleine de riz. Et après cela, qui contestera l'immense supériorité d'âme et de génie des Égyptiens sur les habitants du céleste empire? Il finit pourtant par s'apercevoir que Madame Corneuil ne lui répondait pas. Il en chercha l'explication et il la trouva. « Quelle impression vous a faite le marquis de Miraval ?» lui demanda-t-il d'une voix anxieuse. Cette fois, elle répondit. « C'est un homme fort distingué, dit-elle. Il commence admirablement les histoires, mais il les finit mal. Dois-je être sincère ?»« Ah oui, absolument sincère. Mais il me plaît fort peu. » « M'aurait-il dit quelque chose qui vous est offensé ?» s'écria Horace, saisi d'un remords subi et de la crainte que son oncle n'eût profité perfidement des distractions que lui causaient Emma Netton et le roi Apépi pour hasarder quelques méchants propos. « Non, c'est un homme d'esprit, répliqua-t-elle, mais il faut avoir de l'âme, et je le soupçonne de n'en pas avoir. » En disant ces mots, elle attacha sur le visage du jeune homme ses grands yeux bruns où l'on voyait une âme, et peut-être deux. « À votre tour, soyez franc, reprit-elle. Vous n'avez pas le talent de mentir, c'est un peu pour cela que je vous aime. Vous m'aviez annoncé que vous écririez à Madame de Penneville. » Le marquis et sa réponse. « J'en conviens, dit-il. Mais quand l'univers entier se mettrait entre vous et moi, il y perdrait ses peines. Vous savez si je vous aime, si je vous adore. Votre cœur est à moi, bien à moi ? Demanda-t-elle en lui jetant un regard ensorcelant. Mais pour toujours, pour jamais, répondit-il d'une voix étouffée. Ils approchaient d'une charmille dont l'entrée était étroite. Madame Corneuil passa la première, et quand Horace fut rejointe, se retournant, elle demeura immobile devant lui et le contempla avec un sourire mélancolique. Jusqu'à ce jour, elle l'avait tenu à distance, sans rien lui accorder, sans lui rien permettre. Par une inspiration soudaine, elle dépouilla sa farouche vertu et avança doucement vers lui son front et ses lèvres, qui semblaient réclamer un baiser. Il comprit, mais il eut peur d'avoir mal compris. Il hésitait, enfin il osa, et la serrant dans ses bras, il appuya ses lèvres sur les siennes. Ce baiser le mit hors de lui, le grisa. Il fut sur le point de se trouver mal. Une seule fois jusqu'alors, il avait éprouvé une ivresse d'émotion comparable à celle-ci. C'était près de Thèbes, un jour, que faisant une fouille, il avait vu de ses yeux apparaître au fond de la tranchée un grand sarcophage de granit rose. Ce jour-là aussi, il lui avait pris une défaillance. Madame Corneuil s'assit sur un banc. Il se laissa tomber à ses pieds et, posant ses coudes sur des genoux adorés, les mains dans les mains, il resta quelque temps à la manger les yeux. Il n'y avait que la largeur d'une route entre la charmille et le lac. Ils entendaient la vague qui causait tout bas avec la grève. Elle balbutiait des mots d'amour. Elle racontait des joies et des mystères qu'aucune langue humaine ne peut dire. Après un long silence, « Les grands bonheurs sont toujours inquiets, toujours sur le qui-vive, » reprit Madame Corneuil. « Tous les effarouches, ils ont peur de tout. Je vous en supplie. » « Débarrassez-vous de ce diplomate. Je n'ai jamais aimé les diplomates. Des préjugés, des intérêts, des calculs, des vanités, il ne voit que cela dans le monde. »« Vos volontés me sont sacrées, lui dit-il, et dussé-je me brouiller à jamais avec lui, je ferai tout ce qu'il vous plaira, quoique je lui ai toujours rendu l'amitié qu'il me porte. »« Oui, renvoyez-le dans sa famille. Qui nous en voudrait de l'accaparer ? » Qu'il retourne bien vite lui raconter ses histoires. Ah, permettez, sa famille, c'est moi. Il est garçon, ou plutôt veuve depuis 30 ans, et sans fils ni fille. Mais que m'importe son héritage ? À ces mots, Madame Corneuil sortit de son extase, et dressant l'oreille comme un chien qui flaire une piste inattendue. Son héritage ? Ah, vous êtes son héritier ? « Mais vous ne m'en avez jamais rien dit. »« Et à quel propos vous l'aurais-je dit ? L'argent, qu'est-ce que l'argent ? Mon trésor, le voici » ajouta-t-il en essayant de prendre un second baiser, qu'elle lui refusa sagement, car il ne faut abuser de rien. « Ce sont de lâches misères que les questions d'argent, dit-elle. Est-il très riche, le marquis? Ma mère assure qu'il a 200 000 livres de rente. Qu'il en fasse ce qu'il voudra. Puisqu'il a eu le malheur de vous déplaire, je lui déclarerai tout net que je renonce à la succession. Pfff, encore faut-il y mettre des formes, répondit avec quelque vivacité Madame Corneuil. Vous avez de l'affection pour lui. Oh, je serais désolé de vous brouiller avec un parent que vous aimez. Mais vous, rien que vous, s'écria-t-il, c'est si peu de choses que le reste. Il demeura quelques instants encore à ses genoux. Mais à son vif chagrin, elle l'obligea de se relever en lui disant « Allez, monsieur de Miraval finira par remarquer que nous sommes longtemps absents. Soyons polis. » 2 minutes après, elle rentrait dans la Joupa, où la suivit Horace, et elle aborda le marquis avec une demande d'affabilité qu'elle ne lui avait pas encore montrée. Mais quoiqu'elle eût changé de visage et de procédé, le charme ne laissa pas d'opérer, ou plutôt, l'effet n'en fut que plus sensible. Monsieur de Miraval, qui avait recouvré toute la liberté de son esprit en conversant familièrement avec Madame Verretz et en lui faisant toute espèce de confidence, se troubla de nouveau quand il revit sa belle ennemie. Il répondit à ses avances par des phrases incohérentes, par des propos sans queue ni tête, qui semblaient tomber de la lune. Mais bientôt, comme pris de colère contre lui-même et contre son indigne faiblesse, il se leva brusquement et, se tournant vers Madame Verretz, « Oh, n'oublie pas longtemps, sur La Fontaine, dit-il, ah, je retrouve à l'instant la fin du vers que je cherchais et que voici. Ah, si mon cœur osait encore se renflammer !» Il prit aussitôt congé d'elle, la salua profondément, puis s'avançant vers Madame Cormeuil, il la regarda dans les yeux et lui dit avec une sorte d'âpreté dans la voix « Madame, je suis venu, j'ai vu, et j'ai été vaincu !» Et là-dessus, il s'éloigna comme un homme qui se sauve, en défendant à son neveu de le reconduire. On croira sans peine qu'après son départ, il fut beaucoup parlé de lui. Tout le monde s'accorda à dire que sa conduite était étrange. Mais Madame Verretz déclara qu'il lui paraissait plus charmant encore que singulier. Madame Corneuil le trouvait plus singulier que charmant. Quant à Horace, il expliqua ce qu'il avait eu peur d'un peu bizarre dans son attitude par des inégalités de santé ou par un caprice d'humeur, que son âge rendait excusable. Il avoua du reste qu'il ne l'avait jamais vu ainsi, qu'il avait toujours connu bon vivant, alerte, sûr de sa mémoire, dégourdi et se faisant tout à tous. « Bien, il y a là un mystère que vous serez loin d'éclaircir, » lui dit Madame Corneuil. Et comme, ayant regardé sa montre, il se disposait à se retirer, « À propos, grand paresseux, » lui dit-elle, « quand donc lirez-vous ce fameux 4e chapitre de votre histoire des Hyksos ? Ah, n'allez pas oublier que nous devons le lire un soir et faire à minuit un souper fin en son honneur. Nous le commanderons à Paris, ce souper. Ne sera-ce pas délicieux ?» À l'idée de cette petite fête intime en l'honneur d'un pépi, le cœur d'Horace tressaillit d'aise et sa prunelle s'alluma. « Oh, je ne veux rien vous lire qui ne soit digne de vous. Ah, accordez-moi 10 jours encore. »« Mais 10 jours, c'est un siècle, » fit-elle. « Mais au moins, soyez de parole ou je me brouille avec vous. » Il s'éloignait. Elle ajouta, « Quand vous reverrez monsieur de Miraval, soyez défiant, mais soyez adroit. »« Lui adroit ? » s'écria Madame Verretz lorsqu'elle fut seule avec sa fille. « Pardonne-lui plutôt de traverser le grand lac à la nage. » « Est-ce encore une épigramme ? » dit Madame Cormeuil avec humeur. « Et puisque je l'adore tel qu'il est, lui répondit sa mère, peut-on m'en demander davantage ? Quant à monsieur de Miraval, tu as tort de t'en inquiéter. Mais idée qu'il nous est tout acquis. »« Ce n'est pas la mienne, » répliqua-t-elle. « En tout cas, ma chère, il faut le traiter avec beaucoup de ménagement, car je sais de sources certaines. Ah oui, vous allez m'apprendre, interrompit d'un ton dédaigneux Madame Cormeil, qu'il a 200 000 livres de rente et qu'Horace est son héritier. Ces misérables bagatelles sont pour vous les affaires d'État. Et aussitôt après, elle lui dit « Mais demandez donc à Horace d'inviter le marquis à venir au premier jour déjeuner avec nous. »